You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Cette semaine, à Sydney, a lieu la RoboCup, une compétition internationale au cours de laquelle s'affrontent des robots dans toute une série d'épreuves, parmi lesquelles le robot foot. Et en la matière, la France s'en sort très bien puisqu'elle est triple championne du monde en titre de la catégorie reine, à savoir le robot foot humanoïde. C'est donc une délégation importante que la France a envoyée à Sydney, une quarantaine de personnes au total, parmi lesquelles le professeur Dominique Duhaut. Il enseigne l'informatique à l'Université Bretagne Sud et il est l'un des fondateurs de la RoboCup.
J'ai participé aux premières RoboCup et au comité fondateur de la RoboCup parmi d'autres collègues du monde entier. En fait, c'était une époque où l'intelligence artificielle se réduisait au jeu d'échecs. Et on a eu l'idée de se dire que si on voulait faire quelque chose d'un peu plus intéressant, il fallait qu'on aille dans le monde réel et pas sur un échiquier avec des pièces qui se déplacent dans des cases, mais dans un monde où on bouge réellement et là où il y a du monde qui bouge. Et on s'est dit que le football était un très très bon jeu parce que vous avez en face de vous une équipe qui vous empêche de faire ce que vous essayez de faire, qui est très très simple, c'est de mettre la balle dans un but. Et en plus, vous êtes dans un vrai monde parce qu'il y a une vraie balle, il y a des joueurs partout et vous êtes sur un vrai terrain. Donc ça, c'était le point de départ.
Je me suis baladé un peu plus tôt en bas où se passe, où il y a les terrains de foot. Il y a différents styles de robots. Alors, il y en a effectivement des robots humanoïdes avec des jambes qui marchent. Et puis, il y en a aussi plus simples, juste sur des roues qui poussent les balles en avant. J'imagine que ça reste le football humanoïde qui intéresse le plus, en tout cas du côté du grand public.
Alors c'est certainement le plus spectaculaire et le plus drôle parce qu'effectivement les robots tombent, ils se poussent, enfin ça. Et c'est vrai que l'objectif quand même qui a été affiché, donc qui était pour 2050, c'était qu'une équipe de robots humanoïdes batte une équipe humaine sur un terrain de foot normal. Et ça, c'était le challenge à plus de 50 ans en l'occurrence quand ça a commencé. Et l'idée c'était d'avoir un gros défi. Alors aujourd'hui, c'est vrai que ce défi, les robots humanoïdes, typiquement, on a du mal à les faire courir. Ne serait-ce que faire courir. Et a fortiori, courir sur un terrain qui n'est pas plat, ça devient déjà très, très difficile. Néanmoins, alors c'est pour ça qu'on a fait aussi des robots à roues, parce qu'eux peuvent se déplacer très vite, avec moins de difficultés que le robot à pattes qui se traîne un petit peu. Donc ça permettait d'explorer plusieurs champs de la recherche en même temps. Et donc on a d'une part les robots humanoïdes à pattes qui vont avoir à gérer leur stabilité, qui est le problème numéro un. Et puis après, on a les robots à roues qui, eux, n'ont pas de problème de stabilité. Donc ça va être plutôt l'organisation, la reconstruction du monde avec des caméras qui vont vous permettre de savoir où je suis par rapport aux autres. Et puis comme je ne vois pas ce qui se passe derrière vous, eh bien l'autre va savoir ce qui se passe derrière vous parce qu'il est à un autre endroit, il va vous donner des informations, donc vous allez reconstruire et puis on va imaginer, on va prédire ce qui va se passer. Et donc tout ça, on va pouvoir le faire sur ces autres ligues.
Cet objectif qu'une équipe de robots soit capable de battre une équipe d'humains en 2050, c'est seulement dans 30 ans. Est-ce que, vu le rythme à laquelle la recherche progresse, c'est atteignable ou ça reste un doux rêve?
Est-ce que c'est atteignable? Moi, je pense que non, avec les connaissances que l'on a, parce que arriver à faire simultanément dans le même robot et courir et se localiser et prendre des décisions avec les autres et s'organiser avec les autres, la coordination, c'est une somme de problèmes qui sont tous très très difficiles. Donc évidemment, vous voyez un robot qui saute, mais il ne sait faire que sauter. Après, vous lui demandez d'attraper le ballon avec les mains, il va tomber en avant. Donc, il y a énormément de difficultés. Alors, le problème aussi, c'est que à l'intérieur de ces difficultés, il y a de temps en temps des sauts. Il y a des découvertes, il y a des redécouvertes. Typiquement, il y a quelques années, on a redécouvert ce qu'on appelle l'apprentissage profond. On savait faire de l'apprentissage et là on a appris l'apprentissage profond. Et là, ça a permis de faire plein de choses qu'on n'arrivait pas à faire. Il y a eu un progrès énorme qui s'est fait. Il y a plein de gens qui se sont lancés là-dedans. Peut-être qu'on va avoir aussi des déblocages qui vont avoir lieu là-dedans.
Est-ce que vous avez des exemples concrets de découvertes, en tout cas d'avancées, qui ont été faites à l'issue de cette pratique, des équipes de chercheurs qui participaient au tournoi et qui, en essayant de perfectionner leurs robots, ont découvert quelque chose qui a fait beaucoup avancer le domaine?
Alors bizarrement, c'est pas sur le sol que les découvertes ont été les plus importantes. C'est Raffaello De Andrea qui est un des participants à la RoboCup dès l'origine, qui aujourd'hui est très connu pour les drones volants qu'il fait faire, parce qu'il arrive à coordonner des drones dans l'espace, donc pour faire des tâches. Et il est très très impressionnant parce qu'il est capable de vous attraper un drone, de prendre une paire de ciseaux, de lui couper une palle sur les ailes qui le font marcher. Ensuite, il le relâche dans l'air. Le robot met quelques minutes en se sentant pas bien, donc il brinque-balle dans tous les sens, et puis tout à coup, boum, il retrouve sa stabilité. Et ça veut dire que derrière, le système est capable de se corriger sur des incidents. Et il y a eu des sauts qui ont été faits. Là, je parlais de sauts tout à l'heure, et bien ça, c'est un saut. Et on arrive maintenant à stabiliser des plateformes. Et tous les petits drones, les jouets qu'on achète, sont issus de ce genre de recherche. Alors après, d'un autre côté, il y a aussi des recherches plus appliquées sur les groupes de robots qui se coordonnent, et typiquement dans des usines. On a des exemples dans certains livreurs sur Internet qui livrent du matériel sur Internet. Ils ont des usines où il y a des robots qui vont chercher les pièces, qui les ramènent à l'humain pour qu'il les mette dans son carton, et les robots s'auto-organisent. Et ils s'auto-organisent parce que ces outils d'auto-organisation ont été pensés par des chercheurs et qu'on a résolu un certain nombre de problèmes.
Alors vous faites la liaison avec le monde de l'entreprise, je voulais en parler. Voilà, la robotique, c'est un secteur qui est en train d'exploser. Il y a des articles un peu alarmants qui disent qu'on va tous être mis au chômage par des robots. Comment vous voyez sur le plan économique l'avenir et vos robots dans tout ça, quel rôle vont-ils y jouer ?
Alors, du point de vue strictement économique et humain, moi, avec mon grand âge, j'ai vécu l'arrivée de micro-ordinateurs personnels à domicile. Et après, on a vu l'arrivée du téléphone portable, et on a vu que tout ça, ça a révolutionné la façon dont les gens allaient vivre. On peut imaginer que si on fait des robots qui sont à domicile, par exemple, dans la RoboCup, vous avez une épreuve qui est à domicile, vous allez avoir tout un tas de gens qui vont vieillir. On va avoir un vieillissement de la population qui vont pouvoir être aidés par ces robots. Donc il y a des gains qui sont évidents. D'un autre côté, on sait aussi que tous les êtres humains utilisent toutes les technologies pour les détourner à d'autres profits. On n'y échappera pas non plus. Moi, j'ai tendance à être naturellement optimiste, donc ça va servir plus que ça ne va desservir, mais on va forcément trouver des usages qui vont être pitoyables avec, c'est évident.
Alors, toujours sur cet aspect, parmi les sponsors de l'événement, il y a un certain nombre de grandes entreprises. J'ai vu Toyota, MathWorks. Sur cette compétition et les techniques qui sont utilisées pour faire fonctionner ces robots sur un petit terrain de foot, ces grandes entreprises, en quoi ça les intéresse ? Qu'est-ce qu'elles espèrent obtenir en organisant ce genre d'événement ?
En étant sponsor de l'événement, il se rapproche d'une technologie. Et si aujourd'hui vous avez des voitures qui roulent toutes seules dans la rue, c'est pas par hasard. Je veux dire, c'est parce qu'effectivement, ce sont les mêmes chercheurs. Alors, ils participent pas toujours à la RoboCup, mais c'est les mêmes algorithmes qu'on utilise et c'est la même recherche qui est derrière. Et tous ces progrès-là, ils viennent de là.
Dans quelle mesure l'intelligence artificielle est utilisée ? C'est pour quoi faire, oui, précisément ?
Alors, l'intelligence artificielle, c'est un vaste sujet parce qu'il y a quand même, à l'intérieur, ça se découpe en plusieurs chapelles, en plusieurs choses. Disons que ce qui me semble le plus marquant, c'est aujourd'hui probablement ce qui est fait dans At Home, où vous allez avoir de l'interaction avec l'humain. Donc, on va un robot qui rentre dans une pièce, qui voit plusieurs personnes, qui va aller vers la personne, va apprendre qui est cette personne, va être capable de lui demander ce qu'elle veut, va être capable de réaliser une tâche pour elle, de lui ramener la chose qu'elle a demandé sans se tromper de personne, même si, alors c'est ce qu'il s'amuse à faire par exemple, il s'amuse à ce que les deux personnes qui sont assises changent de siège pour voir si le robot arrivera à reprendre la décision. En fait, il faut le rendre humain. Alors néanmoins, tout ça, ça reste de l'intelligence artificielle, je dirais simple. On peut considérer que dans l'intelligence artificielle, vous allez avoir de l'intelligence artificielle qui va être, je dirais, vraiment intelligente. Le jour où un robot va s'apercevoir qu'avec cet outil-là, il peut faire quelque chose qui n'était pas la destinée première de l'outil. Et c'est là que vous avez un côté, entre guillemets, créatif, c'est-à-dire que vous prenez, vous assemblez, par exemple, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais une machine à laver avec un marteau, et vous dites, mais avec ces deux choses-là, je peux faire quelque chose auquel personne n'avait jamais pensé. Alors là, en termes d'intelligence artificielle, ce n'est pas du tout ce qu'on cherche, enfin, ce n'est pas là-dessus qu'on est. On est sur des services rendus dans des conditions qui sont proches de l'humain.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.